Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Les Israéliens voteront aujourd'hui mardi pour la deuxième fois dans l'année. Équation difficile pour le Premier ministre sortant de droite, Benjamin Netanyahou. Il affronte, comme en avril, le centriste Benny Gantz. L'abstention, notamment chez les Arabes d'Israël, pourrait être cruciale. Nous irons sur place. Dans ce journal aussi, direction l'Algérie, où une nouvelle manifestation d'étudiants est prévue ce matin. Ils refusent l'organisation d'élections le 12 décembre prochain. Enfin, en France, Emmanuel Macron assure vouloir regarder en face le sujet de l'immigration. Il désigne un adversaire à 6 mois des municipales, le Rassemblement National. Le président le disait hier devant la majorité. C'est donc jour d'élection aujourd'hui en Israël, les deuxièmes législatives en 5 mois, avec l'espoir cette fois de trouver un gouvernement de coalition. Israël compte 9 millions d'habitants, dont environ 20% d'Arabes. Un poids suffisant pour faire basculer une élection, mais traditionnellement cette communauté vote peu et se sent encore mal insérée, 71 ans après la fondation de l'État juif. Le centriste Benny Gantz aimerait les attirer vers lui pour battre le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahou, qui est au pouvoir sans interruption depuis 10 ans maintenant. Pour France Culture, Frédéric Mettezo s'est rendu dans le sud d'Israël où les Arabes constituent une minorité importante.
Rahat, 69 000 habitants, est peuplée quasi exclusivement de bédouins sédentarisés. Le taux de chômage atteint les 17% contre 4% au niveau national. Pour Majdi, 30 ans, étudiant en médecine, les inégalités sont profondes et elles commencent très tôt.
Les étudiants, tous les gens ici sont moins égaux que les étudiants de, vous savez, l'autre partie du pays. La plupart des étudiants ici veulent atteindre le plus haut niveau. Nous ne sommes pas la périphérie, nous sommes le centre.
Benny Gantz est venu faire campagne ici. L'accueil a été chaleureux. Salé, cadre d'entreprise, apprécie le candidat centriste.
C'est un homme bon. Peut-être qu'il va nous changer de Bibi Netanyahou, ce fou qui n'aime pas les Arabes. Je suis Israélien, j'appartiens à cette terre, j'appartiens seulement à Israël.
Une forte mobilisation de l'électorat arabe pourrait décider du résultat final, mais l'abstention risque d'être forte, regrette Alehan Al-Kernaoui. Il est professeur à l'université du Negev.
J'encourage les gens à voter, je veux voir du changement. On détruit nos maisons, on nous marginalise. On ne partage pas les richesses équitablement entre Arabes et Juifs. Il y a beaucoup de déceptions chez les Arabes ici. Je pense qu'environ 50% iront voter, malheureusement.
Durant toute sa campagne, Netanyahou a accusé les électeurs israéliens arabes de fraude. Leurs bureaux de vote seront très surveillés aujourd'hui.
Frédéric Mettezo en Israël, avec qui nous suivrons régulièrement ce vote organisé donc aujourd'hui. En Algérie, la présidentielle pourrait avoir lieu le 12 décembre prochain sur décision des autorités. Mais, et cela était prévisible, une partie de la société civile algérienne ne semble pas convaincue que l'élection soit la bonne solution. Elle se bat depuis le mois d'avril et l'éviction d'Abdelaziz Bouteflika pour avoir plus de pouvoir. Et elle refuse donc de participer pour le moment au scrutin de décembre. Leïla Berato a rencontré certains représentants de la contestation.
Il était favorable au dialogue, voire à une présidentielle. Mais Soufiane Djilali, président du parti d'opposition Jil Jadid, y mettait certaines conditions. Des conditions qui, selon lui, ne sont pas remplies aujourd'hui.
Il y a une telle méfiance, il y a une telle rupture de confiance que les Algériens ont le sentiment que le pouvoir, encore une fois, veut décider à leur place qui serait le futur président. Les règles du jeu n'étant pas claires, la rue, à l'évidence, refusera cette élection.
Au sein des manifestants et des militants, l'annonce a provoqué beaucoup de colère. Pour Imen, médecin, il n'est pas question d'arrêter de manifester.
Ce n'est pas l'idée de « on passe aux élections », c'est comment ils présentent ça, en disant que les conditions sont toutes réunies pour aller vers un scrutin, alors qu'on sait pertinemment que les conditions ne sont pas réunies. On continue à mépriser le peuple et on continue à mépriser cette révolution.
La principale critique est celle du manque de légitimité, du manque de transparence des instances qui seront chargées d'organiser le scrutin. Des petits rassemblements ont eu lieu dans quelques villes du pays pour le dénoncer. Ce mardi, les étudiants organisent une nouvelle manifestation à travers le pays et elle devrait donner le ton de la réponse des Algériens.
Trois jours après les attaques menées contre des installations pétrolières en Arabie Saoudite, les États-Unis continuent de pointer du doigt la responsabilité de Téhéran. Hier, le président Donald Trump s'est tout de même montré prudent. Il attend, dit-il, encore les conclusions de Riyad. La région du Golfe encore, et cette information de la cellule investigation de Radio France ce matin. Une frégate saoudienne entretenue par la France a été identifiée au large du Yémen. Elle est impliquée dans le blocus du pays. Information à retrouver sur franceculture.fr et dans le journal de 7h tout à l'heure. Emmanuel Macron s'est adressé hier soir aux parlementaires de la majorité. Les députés et sénateurs de La République En Marche et du Modem avaient été invités à se réunir au ministère des Relations avec le Parlement pour se projeter vers la deuxième partie du quinquennat. Le président de la République a insisté devant eux sur l'importance de maîtriser l'immigration et de ne pas laisser ces questions au Rassemblement national. Le député La République En Marche du Val-d'Oise, Aurélien Taché, l'évoquait hier lors du journal de 22h sur France Culture.
Effectivement, le président de la République a rappelé que quand on était confronté à des échéances électorales, quand on devait mener une bataille, il valait mieux être uni que divisé. Et c'est évidemment le cas pour les élections municipales, à Paris comme ailleurs d'ailleurs. Mais plus globalement, moi ce que je retiens du message du président de la République, c'est que finalement, on doit être unis dans un combat dont l'adversaire principal est ceux qui aujourd'hui prônent finalement un repli, une société fermée où on sortirait de l'Europe, ou en tout cas la France n'y trouverait pas sa place, où on aurait bien ces conservateurs, ces populistes, le Front National qui continuent de progresser et de faire avancer leurs idées, et que notre responsabilité était de proposer un projet de société qui amène des réponses qui détournent les Français de celles qu'amènent ces nationalistes qui veulent le déclin de notre pays.
Des propos recueillis par Antoine Geoffin. Avocats, personnels navigants, infirmières, médecins, les représentants des professions libérales étaient hier dans la rue par milliers pour s'opposer à la réforme des retraites qui mettrait fin à leur caisse autonome. Dans le cortège notamment, Yves Verrier, le secrétaire général de Force ouvrière. Il appelait à manifester de nouveau ce samedi. Il veut préparer la convergence avec d'autres syndicats.
Chaque président de la République, depuis 1993, a fait sa réforme des retraites. Et on a l'expérience que ce soit en 2003 ou en 2010, les manifestations de rue, même aussi réussies soient-elles, ne suffisent pas à faire entendre raison à nos interlocuteurs. FO appelle à un rassemblement le 21 septembre. On sait très bien que le soir du 21 septembre, ça n'aura pas suffi à faire changer d'avis le gouvernement. On sait que si on veut empêcher la mise en œuvre de ce régime unique par points, il faudra être capable de coaliser le plus grand nombre, et en particulier le plus grand nombre de salariés. Donc c'est un processus qui se met en place. Il faudra aussi que l'on convainque le maximum des principales organisations syndicales de salariés. Moi, j'ai en tête d'aller vers la possibilité d'une unité d'action syndicale la plus large. Donc je suis en contact avec la CGT. Je ne perds pas le contact avec la CFDT, même si elle s'est inscrite elle-même dans le processus du système universel. Donc il faut rechercher d'abord le plus grand nombre, et à un moment donné, si nous ne sommes pas entendus, cesser le travail ensemble le plus largement possible. C'est le moyen d'action historique des salariés, et pour Force ouvrière, nous y sommes prêts, et nous serons prêts à aller sur un appel à la grève si nécessaire, si nous ne sommes pas entendus.
Yves Verrier de Force ouvrière, il répondait à Marie Viennot. C'est un jugement qui sera sans doute étudié dans les écoles de droit. Hier soir, le tribunal correctionnel de Lyon a relaxé deux décrocheurs d'un portrait d'Emmanuel Macron. Ils étaient poursuivis pour vol en réunion. Pour les relaxer, le juge a évoqué un motif de légitimité face à l'urgence du dérèglement climatique. Le parquet a fait appel de cette décision. Lui enchaîne les recours. Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion. Il est cette fois devant la Cour de cassation qui va examiner sa demande. L'ancien président avec 13 autres protagonistes avait été renvoyé en correctionnel pour financement illégal de campagne électorale. Nicolas Sarkozy est poursuivi pour avoir dépassé le plafond autorisé lors d'une campagne, plafond de 20 millions d'euros, ce qu'il conteste, Florence Turm.
La défense de l'ancien président de la République aura activé tous les recours possibles prévus par la loi, non seulement pendant toute la durée de l'instruction, mais aussi depuis la décision de renvoi il y a maintenant plus de 2 ans et demi. Après un premier appel Rejeté en octobre dernier, Nicolas Sarkozy a brandi le principe du non bis in idem, selon lequel une personne ne peut être sanctionnée deux fois pour les mêmes faits. La Cour de cassation a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, mais en mai dernier, les sages ont rejeté la QPC en estimant que l'ancien président pouvait être poursuivi pénalement, malgré la sanction financière prononcée à son encontre pour les dépenses excessives de la présidentielle de 2012. La facture totale frôlait les 43 millions d'euros, près du double des montants autorisés. Le dossier revient donc aujourd'hui devant cette même Cour de cassation, qui devra trancher sur d'autres moyens soulevés par la défense, notamment le fait que l'ordonnance de renvoi n'avait été signée que par l'un des deux juges d'instruction chargés de l'affaire. C'est pour Nicolas Sarkozy la dernière chance d'éviter un nouveau procès, la justice ayant définitivement validé son renvoi en correctionnel pour corruption active et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes, aux côtés de son avocat Thierry Herzog et de l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert.
Ce mardi sera encore estival en France métropolitaine avec un grand soleil sur la moitié sud, quelques belles éclaircies au nord et ce matin comptez 17 degrés à Lille, 19 à Paris, 26 déjà à Perpignan.